cher Raphaël, j'avais hâte de te parler aujourd'hui avec cette grosse, grosse, grosse nouvelle qui est sortie pendant l'émission. Philippe Quentin nous en a parlé tout à l'heure. William Barr, le procureur général, un des plus fidèles de Trump, tellement fidèle que les démocrates disaient qu'il se comportait plus comme un avocat de Trump que comme un procureur général. Eh bien, il vient de quitter le bateau, en un sens.
Ben, dans plus qu'un sens. Parce que là, c'est drôle.
J'exagère peut-être en disant qu'il est dans le bateau, mais forcément, il est plus d'accord avec son boss, là.
Sur une question assez fondamentale. En fait, la question la plus fondamentale depuis les 4 dernières semaines. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu de la fraude massive, systémique dans l'élection qui a fait en sorte que Donald Trump a perdu sa campagne de réélection?
Et qui
le
se
procureur
bat...
général.
Ouais, oui, ouais, continue.
Le procureur général des États-Unis. Qui déclare publiquement aujourd'hui en entrevue avec l'Associated Press que la réponse, c'est non. Et ce qui est intéressant, la dame Marie-Claude, c'est que on se parlait hier à la chronique du fait que Donald Trump, pendant la fin de semaine, avait interpellé le département de la justice que M. Barr dirige, avait interpellé le FBI, qui relève également du département de la justice, mm-hmm. en demandant où est-ce qu'ils sont, ils manquent à l'appel, ils devraient enquêter. Et là, tu as son procureur général, l'équivalent de son ministre de la justice, qui sort aujourd'hui pour dire... On a enquêté, le département a enquêté, le FBI a enquêté. Il n'y a absolument aucune indication de fraude systémique qui aurait eu un impact décisif dans la course présidentielle.
Ouais. Donc, dit autrement, ce qu'il est en train de dire, c'est Donald Trump, là, en ce moment, il dit n'importe quoi.
Exact. C'est la meilleure façon de le dire. Fait qu'on s'entend que c'est sûr que ça détonne énormément présentement. Avec le discours du président, avec le discours de ses plus importants supporters, la question à ce stade-ci, c'est de savoir comment le président va réagir.
Oui, puis ça détonne même avec sa propre attitude à lui, William Barr.
Oui, et c'est là que c'est remarquable, parce que tu l'as mentionné toi-même tantôt, Barr s'est fait accuser depuis qu'il est en poste, ça fait à peu près 2 ans, d'être un procureur général qui est extrêmement partisan. Maintenant, il faut préciser, je pense, d'emblée, pour être, disons, moindrement raisonnable, là, que c'est difficile pour un procureur général de toujours avoir l'air parfaitement impartial parce que, oui, en principe, il est censé y avoir une espèce de distance entre son département et le président. En même temps, dans la pratique, c'est pas si facile que ça parce que le procureur général, c'est vrai pour Barr, c'est vrai pour tous ses prédécesseurs, il est nommé par le président. C'est une nomination qui est politique à la base. Il fait partie du cabinet. Fait que, tu sais, t'es tout le temps, à quelque part, un pied dans chaque bocal, si on veut. Mais avec Barr, je dirais que ça a été vu comme étant un mandat particulièrement partisan. Donc, de le voir, lui, sortir aujourd'hui, et de façon aussi catégorique que ça, là, en entretenant aucune espèce de doute et en disant clairement non, il n'y a rien, on n'a rien trouvé.
Et ça va fâcher le patron. Et quand le patron est fâché, ben il se bat encore plus fort. Fait que je ne sais pas ce qui va nous sortir cette nuit, mais il va être très, très, très fâché.
Et ce que le patron fait depuis 4 semaines, quand il y a quelqu'un d'important qui contredit sa version des faits là, par rapport à l'élection, c'est qu'il congédie.
Tout à fait.
Et je veux qu'on se parle d'un type justement qui l'a congédié. Dans le dernier mois, qui s'appelle Chris Krebs, dont on avait parlé à l'émission, le directeur, si on veut, de la lutte contre la cybercriminalité aux États-Unis, qui est allé dire essentiellement, écoutez, c'est du n'importe quoi ces affaires d'allégations là, de fraude massive, Trump l'a dégommé. La raison pour laquelle je t'en parle aujourd'hui, c'est que M. Krebs, là, est ressorti publiquement pour dire, savez-vous quoi, je pense que je vais faire appel à des avocats. Et la raison pour laquelle il veut faire appel à des avocats, c'est qu'il a entendu des propos tenus par un des avocats de Donald Trump à son sujet, en onde, dans une émission de radio américaine. Je veux qu'on écoute ça. Là, il est question d'un des avocats du président des États-Unis qui parle de l'ancien directeur de la lutte contre la cybercriminalité aux États-Unis. On écoute ça.
That guy is a class A moron. He should be drawn and quartered, taken out at dawn and shot.
Wow! Tu nous traduis ça, c'est trop important.
C'est trop important. Donc, tu as l'avocat personnel, un des avocats personnels de Donald Trump qui dit que ce type-là, cet ex-haut fonctionnaire américain-là, devrait être pris de chez lui et abattu.
Ouais. Il commence par dire que c'est un moron.
Mais ça, je te dirais que c'est la partie la plus douce.
Oui, mais ça menait à c'est un moron, puis il mérite juste de se faire tirer dessus. C'est un avocat de Trump, là.
C'est un avocat de Trump, c'est un avocat du président. Et lui n'est pas sanctionné, mais le type qui reçoit ce qui est probablement l'équivalent de menace de mort, là, soit dit en passant, ce qui est censé être criminel aux États-Unis, lui, on l'a dégommé. Ça te donne une petite idée du niveau de discours présentement qu'on a présentement à la Maison-Blanche. Et rappelle-toi aussi qu'il n'y a même pas un mois, Steve Bannon, l'ancien stratège en chef de Donald Trump, disait lui aussi publiquement, en onde, qu'on devrait mettre la tête du Dr Fauci sur un bâton. Tu sais, ce sont des propos là qui sont... Écoute, je te laisserai te
c'est loin
tirer
de
des
nous,
conclusions.
Hein?
Là.
C'est loin
c'est
de
loin, effectivement.
Ouais, donc, la proche, en réalité, là, si tu veux, en termes géographiques, mais mon Dieu, qu'ils sont loin.
En termes culturels, c'est assez loin. Mais je te dirais qu'écoute, même en termes culturels, c'est loin de ce que... Écoute, toutes les maisons blanches qu'on a vues de nos vivants, nous ont habitués. Là. Et pour bonne cause.
Ouais, absolument. Ouais. Il nous reste une petite minute et demie. Alors, tu veux nous parler des élections dans lesquelles le recomptage peut faire une différence, et effectivement.
Je vais faire ça dans 10 secondes, Marc-Claude. Je vais juste conclure rapidement pour ce qui est de Donald Trump et de la période de transition, parce qu'on a sorti, le réseau NBC a sorti dans la toute dernière heure une nouvelle comme quoi Donald Trump n'assisterait pas à la sermentation de Joe Biden, ne l'invitera pas à la Maison-Blanche d'ici au 20 janvier et ne l'appellerait même pas pour le féliciter d'ici non plus au 20 janvier. Donc, c'est sûr qu'on a affaire à quelqu'un qui a un comportement, on s'entend, qui évolue très rapidement, qui est très imprévisible. Donc, ça ne veut pas dire que c'est ça qui va se produire, mais la décision présentement semblerait être prise à cet effet-là à la Maison-Blanche. Donc, quand on se parle de choses qui détonnent avec la tradition, là, en voici un autre bel exemple. OK, écoute,
il y a un départ au golf le 20 janvier, c'est ça son affaire.
Oui, ça doit être ça. Écoute, il nous reste une minute rapidement, ça vaut la peine, parce qu'on se dit qu'il y a des recomptages complètement bidons qui sont demandés par le président. Voici un cas dans lequel il y a un recomptage qui est parfaitement légitime. La course en Iowa, qu'on a présentement pour une petite circonscription, géographiquement, on parle de 400 000 votes dépouillés et on a certifié dans les dernières heures la victoire de la candidate républicaine qui a une marge finale de 6 voix. 6 voix, Marie-Claude.
Et comment tu gages qu'il
n'y
aura pas de demande de recomptage de
Ben là, on peut plus. Écoute bien ceci, on ne peut plus recompter, mais la candidate démocrate défaite a dit qu'elle allait elle-même traîner ça devant les tribunaux. Et on pourra s'en reparler demain, mais ça pourrait finir dans un scénario dans lequel la Chambre des représentants refuserait de faire siéger, la nouvelle élue, parce que c'est tellement serré.
Combien de votes encore? 6?
6. Oh, ça, là, c'est un ménage. C'est l'équivalent d'un ménage. C'est 3 personnes qui décident de voter pour un parti plutôt que l'autre sur l'équivalent de la ville de Laval au complet, hommes, femmes et enfants qui seraient tous allés voter.
Incroyable.
C'est un ménage qui fait la différence. La course la plus serrée au Congrès en presque 40 ans.
C'est là-dessus qu'on se laisse, cher Raphaël, mais on se dit à demain.
À demain.
Salut. On s'arrête le temps d'une petite pause et Mario Langlois sera avec nous après pour nous parler de son émission.